ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Véronique Isenman. Bonjour madame, merci d'être venue dans notre radio, on va dire catholique, œcuménique. Vous êtes pasteur de l'église, on dit, unifiée de France.
Bonjour Benoît, merci de me recevoir. Je suis chargée de mission à l'église protestante unie de France sur un poste pastoral pour 6 paroisses en Ariège.
Voilà, et vous avez pas mal circulé dans le monde.
Je suis en France depuis un an et demi.
Oui, mais avant, vous étiez à Strasbourg, puis en Suisse, et puis Abraham quitte ton pays et vous êtes senti appelé par, on va dire, par Jésus, par le Seigneur, par une vocation.
Tout à fait, oui. J'ai passé 20 ans en Suisse, après avoir passé 20 ans en Alsace, puis 20 ans dans le monde, entre le Niger, le Congo, le Canada, un peu d'Amérique centrale et la France maintenant.
Et j'ai dit que, sur le site d'ailleurs, vous êtes bibliste, j'allais oublier de le dire, c'est important, et vous êtes aussi écrivain. Donc vous êtes passionné par cette recherche de sens à la vie. Ma foi, j'y crois, quel est le sens? C'était cette étoile qui nous guide parfois, sans doute, mais aussi ce livre que vous avez écrit, Entre contes, psychanalyse et Bible.
Oui, c'est
tout un programme.
C'était le fruit d'un travail commun entre une contiste, donc une spécialiste du conte, une psychanalyste jungienne et moi-même comme bibliste. Nous avons revisité les grands textes bibliques, certains, le cycle de David, la femme de Lot et quelques autres, avec l'éclairage et de la psychanalyse jungienne et avec les grands motifs et les grands thèmes des contes.
Ce sont des mythes, on touche à l'anthropologie. Est-ce qu'il y a un universel dans cette lecture des textes que certains disent sacrés, puis d'autres disent non? Ce sont des interprétations, des questions universelles. Alors, de l'homme et de la femme.
Ce sont des questions certes universelles, mais avec un regard très particulier, qui est le regard biblique, qui est quand même très spécifique. Et en particulier, ce qu'il a de fort, c'est qu'on ne cherche jamais dans le texte biblique à amoindrir ce qui est de la pâte humaine. Nous parlions d'Abraham l'autre jour quand vous m'avez appelé et vous me disiez qu'Abraham, c'était pas forcément la personne parfaite que tout le monde imagine. Et ça m'a beaucoup interpellée, ça me touche parce que justement ce qui est propre au texte biblique, c'est de prendre en compte cette patte humaine que j'ai apprise à découvrir au Congo. En Europe, en Occident de manière générale, on répartit les gens entre les bons et les méchants, ceux qu'on peut fréquenter, ceux qui ne sont pas fréquentables, ceux qui sont dignes de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Et la Bible ne fonctionne pas du tout comme ça. Et le Congo m'a fait prendre conscience que nous sommes toutes et tous capables du meilleur et du pire. Quand nous, il y a cette part et de merveilleux, de magique et de violent, de destructeur, d'ombre et... C'est ça qui est magnifique dans le texte biblique. On faisait un groupe Bible ensemble à Foix récemment et nous avons terminé ce cycle de David que nous traitions cette année avec le viol de Tamar. Et ça a complètement libéré les paroles de tous les participants du groupe. C'est absolument magnifique de pouvoir se dire que Dieu nous reçoit tels que nous sommes, bien sûr, sans recevoir les actes de violence, mais la personne, et que d'autant plus encore, son histoire avance à travers les femmes et les hommes tels qu'ils et elles sont. Ça
oui,
ne
mais
l'empêche
les missionnaires,
pas.
Ils n'ont quand même pas fait que des bonnes choses en apportant le progrès, en luttant contre l'animisme. Alors, est-ce qu'il y a une théologie? On en parlait avec plusieurs des personnes qui sont venues avant vous. Y a-t-il une théologie spécifiquement africaine ou bien est-ce que les théologiens vont établir des ponts à la fois entre les religions, nous allons en parler tout de suite, mais aussi entre les cultures? Une chose qui est bonne dans Abraham, quand on voit comment il combat avec Dieu. Sodome sera-t-elle détruite? On retrouve un peu l'histoire de Jonas aussi. Faut-il convertir
Mais à la fois, dans Abraham, il y a des choses merveilleuses et d'autres choses qui nous laissent complètement perplexes ou que nous ne comprenons pas, qui nous laissent être capables, vouloir sacrifier son enfant pour Dieu, c'est avoir un regard bien particulier sur Dieu quand même.
Ça, et... c'était pédagogiquement pour dire, stop, à partir de maintenant, il n'y aura plus de sacrifice d'enfant.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que quand on fait une exégèse de détails, on voit que ce n'est pas du tout ce qui est demandé à Abraham.
Mais après, il rêve de cela, Abraham. On ne sait pas. Dieu lui a parlé, mais ça, c'est dans le texte de la Genèse. Mais est-ce que Abraham est sûr que Dieu lui a parlé?
Je reviendrai volontiers avec vous faire une exégèse de détails.
Absolument.
Sur ce texte d'Abraham qui révèle que c'est la vision qu'Abraham a de Dieu et que ce n'est pas du tout ce que Dieu lui demande. Mais ça, ça nous prendrait un petit moment. En revanche, c'est sûr que les théologies africaines, il faut qu'elles aient à se définir. J'ai enseigné à l'ULPGL à Goma la littérature de sagesse et l'hébreu. Et c'est sûr que ce n'est pas encore tout à fait évident d'avoir une théologie de terrain qui ne soit pas complètement sous l'emprise d'une lecture à la fois misogyne, magique, de qui est Dieu. Un Dieu vivant qui transforme le monde aujourd'hui. Je ne l'ai pas rencontré à Goma, par exemple. Pas du tout. J'ai rencontré un Dieu qui guérit quand on le paye, qui fait des miracles quand on y met les montants nécessaires. Et ça, quand même, c'est un peu triste.
Avec des superstitions et toute une sorte de lutte contre les idoles, parce que c'est quand même ça qui a fait partir Abraham de son pays, d'avoir tué ceux qui n'ont ni oreilles ni yeux. Mais Abraham, c'est aussi celui qui accepte d'obéir à Sarah, pour envoyer Agar dans le désert, mais c'est aussi celui qui est inquiet par rapport à sa, on va dire, son infertilité, le fait de ne pas avoir d'enfant alors qu'il est déjà âgé. Donc ça aussi, c'est une question qui est autrement actuelle, on va dire, avec la fécondation in vitro ou avec d'autres mécanismes où l'homme est inquiet par rapport à ce qu'il va devenir s'il n'a pas d'enfant.
Et d'ailleurs, ça a beaucoup changé par rapport à mon enfance. C'est quand j'ai été jeune femme, c'était pas un problème de pas avoir d'enfant, et je vois qu'aujourd'hui c'est de nouveau un gros problème pour beaucoup de femmes, et ça m'interroge effectivement. Mais par rapport à Sarah, vous le disiez, j'ai trouvé très beau de découvrir dans le Coran, ou non, dans la littérature autour du Coran, comment l'islam voit Sarah. C'est au contraire, c'est une grande mère qui a pris soin du salut d'Agar et qui s'est assurée auprès d'Abraham qu'il ne lui arrivera rien.
Ah, là, nous sommes aussi devant probablement des divergences dans l'interprétation. Mais alors, laissons la place à la poésie, puisque vous nous avez apporté le beau chant de Céline Dion. Vous nous expliquez pourquoi. Elle nous parle de la mémoire d'Abraham. Mmh. Et justement, elle nous apporte du sens, non seulement sur le partir, mais aussi sur la bénédiction des enfants.
Exactement. Merci.
Juste une prière avant d'obéir à l'ordre des choses et de l'attente de l'heure.
J'y crois, avec Benoît Petit.
Ce soir, avec Véronique Isenmann, merci de venir nous parler d'Abraham et nous expliquer pourquoi vous avez choisi Céline Dion. Je rappelle pour ceux qui prennent l'antenne en cours de route que vous êtes pasteur, bibliste et écrivain. Et nous parlions d'un de vos livres qui s'appelle « Contes, psychanalyse et Bible », tout un programme, mais aussi « Histoire pour consoler Dieu ». Céline Dion, pourquoi ce choix ?
Mais à la fois parce que j'aime que cette femme du show business, cette Québécoise où j'ai passé du temps, qui parle français mais aussi anglais, qui vit aux États-Unis, nous parle de Dieu, d'Abraham, dans une interculturalité qui m'est très chère. Elle fait aussi un lien intergénérationnel, cette mémoire, cet héritage qui nous est commun entre les trois religions du livre et qui amène à sa dernière phrase et conduit nos enfants
pour la fin des temps.
Et voilà, c'est magnifique, c'est une bénédiction d'un universel qui me touche, et justement la dimension interreligieuse, et cet apaisement, la beauté de sa voix, la beauté de ce chant.
Mais nous aimerions que des sociologues, des psychologues réfléchissent sur ces enfants d'Abraham, parce qu'il n'y a pas eu que les enfants d'Agar et de Sarah, il y a eu aussi tous ceux de ses concubines, dont nous parlons relativement peu, mais si on lit de manière approfondie la Genèse, vous disiez que Sarah n'a pas renvoyé dans le désert Agar. En tout cas, le miséricordieux Dieu dans la sourate nous explique qu'il y a eu un palmier dattier pour donner de l'ombre à Agar, alors que Jonas n'a pas eu la chance d'avoir cette courge ou ce cet arbre parce que il a douté de Dieu peut-être ou parce qu'il se dit mais pourquoi tu convertis les gens sans moi. Nous sommes devant aussi la beauté de la créature, puisque sur le site de la radio, vous nous avez apporté ce beau paysage de l'oasis.
C'est un moment
qui vous est cher.
Pause fort au Niger avec mes sœurs, Aïe, Aminatou, Mino et Moussa, Moïse. Nous avons beaucoup travaillé en brousse et c'était la première fois, on était dans une sécheresse énorme et c'était la première fois que je voyais un point d'eau dans le désert. Et comme vous me l'avez fait remarquer, c'était magnifique, mais je n'avais pas fait le lien avec Agar, avec le puits dans le désert, et ça m'a touchée quand vous m'en avez parlé. Je vous remercie de ce cadeau parce que je le reçois comme un cadeau.
C'est comme les trois messagers sont venus apporter un cadeau et voilà. Que Sarah a ri
c'est
parce
ça.
Qu'elle ne croyait pas qu'elle pourrait encore enfanter à son âge Isaac, le père, le fils de la promesse. Mais Isaac lui-même a eu des petits problèmes conjugaux, et Isaac et Jacob, et puis Jacob et Joseph. Donc je crois que nous devrions, pas seulement au catéchisme, redire ces histoires. Elles ne sont pas forcément saintes,
non.
C'est l'histoire des hommes.
C'est ce que j'aime dans le texte biblique, c'est cette traversée de Dieu dans ce que nous sommes en humanité, la prise en compte des humains tels qu'ils sont et le chemin de vie qu'il ouvre à chaque génération. Je relisais à elle le texte de Pentecôte en paroisse qui finit par le vin doux, et il se trouve que ce vin doux, c'est celui que Jacob apporte à son père au moment où il lui demande la bénédiction.
Oui, mais il y a une ruse, il y a un mensonge.
Bien sûr. Mais malgré la ruse, Dieu ouvre des chemins de bénédiction, malgré toutes les ruses, toutes les fourberies, toutes les tromperies, tous les mensonges.
Au-delà du bien et du mal, dirait Nietzsche, ou Dreverman avec la peur, le suicide, le mensonge, oui. Nous sommes au-delà.
Ce sont des auteurs qui me sont chers, bien évidemment.
Alors peut-on pardonner ? Doit-on accepter ?
Alors pour moi, le pardon est fondamental et je l'ai vraiment appris au Congo. Vous savez, au Congo, il y a une telle violence que pour survivre, on doit baisser son niveau de conscience. Et un jour, on prend conscience de sa propre violence. J'ai pris conscience de ma propre violence.
Et de sa finitude.
Et de ma finitude. Et j'ai été déconstruite complètement. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai dit maintenant, je comprends pourquoi... Je n'ai jamais pu adhérer à l'amour avec un grand A, comme ça, aimant tout le monde. En revanche, le Congo m'a fait prendre conscience profondément que je suis faite comme tout le monde, de la même pâte, de la même Adama, du même humus, comme me disait un jardinier québécois, hein, l'humain de l'humus, de la même terre. Et que quand on prend conscience de ça, quand on sait qu'on est capable de laisser quelqu'un au bord du chemin sans lui porter assistance, dans une indifférence totale, eh bien à ce moment-là, on se dit le pardon est premier, avant l'amour.
Vous dites la foi n'est pas faite de théorie, ni de syncrétisme, mais de rencontre.
Ah oui, complètement. Complètement. Ce sont les autres qui
le
m'apprennent.
Le Samaritain.
Les Mais autres d'aujourd'hui aussi qui m'apprennent Dieu. Oui.
Et puis, vous nous avez apporté aussi ce chant, Shalom, Shalom Aleichem, au nom du Dieu Tout-Puissant. Et nous l'écoutons parce que c'est toute la manière de parler, non seulement de notre histoire, de la Bible, mais aussi des relations que nous avons avec nos frères, aînés dans la foi. Nous écoutons ce chant par Fortuna.
Shalom aleichem, malachei hasharit, malachei elyon. Yihi melech, malachei hamalachim, hakadosh baruch hu. Kochem l'shalom, malachei hasharit, malachei elyon.
J'y crois, avec Benoît Petit.
Et Véronique Isenman, pas la peine de vous représenter, mais de dire ce chant, ce poème, Shalom, la paix, c'est pas seulement parce que vous avez une ascendance avec une grand-mère ashkénaze.
D'origine lointaine ashkénaze.
Et puis aussi parce que vous êtes très ouvert aux lectures plurielles de la Bible. Pas seulement dans les homélies que vous faites dans les 6 paroisses réformées d'Ariège que vous êtes amené à refonder,
non,
dirions-nous.
Non, à accompagner dans leur grandissement à elles.
Dans ces périodes de pandémie, il
faut... Avec une très belle vitalité, elles sont pleines de joie, et autour du texte biblique justement, et mon vœu shalom pour elles est permanent.
C'est ça.
C'est mon mot de paix pour elle.
Voilà, en même temps, vous êtes aussi avec un compagnon qui est très proche, même plus que proche du Coran.
Mon conjoint est musulman, il est petit-fils d'imam, et on fait une lecture plurielle de cette parole une d'un Dieu un qui se donne à nous, à chacune et chacun, comme il le désire.
Tout-puissant et miséricordieux.
Voilà. Tout-puissant
et nous sommes appelés à la soumission, à l'obéissance, mais dans notre liberté. Ce sont des mots pièges, hein, comme ceux lorsqu'on dit est-ce qu'on va pardonner, est-ce qu'on a besoin de réparation, comment réparer symboliquement tout ce qui s'est fait au niveau de la colonisation ou actuellement lorsqu'il y a des blessures et de la violence. Donc le travail des églises, c'est justement d'apporter la paix, relire, oui, mais en même temps relier. Or, il y a des cassures de l'histoire. On parle du Concile de Trente, des indulgences, si on veut, le conflit, mais on peut parler aussi que Paul nous appelle à la grande fraternité, ni homme ni femme, ni esclave, ni homme libre, la lettre aux Romains qui nous a divisés, protestants et catholiques, mais qui nous réunit depuis...
C'est un texte à la fois complètement magnifique, puisque il permet à toutes et tous d'être reconnus dans les mêmes droits, et en même temps... Il est piégeant. Enfin, je suis très habitée, moi, par la justice de Dieu. D'ailleurs, le psaume d'aujourd'hui le dit, hein, le psaume 143, il fait justice aux opprimés. Il ne saurait pas y avoir de paix s'il n'y a pas de justice. Et fondamentalement, j'ai eu l'occasion, moi, de rencontrer les théologiens de la libération latino-américaine. Oui. Et du coup, je suis très sensible depuis toujours à cette dimension de justice. La justice et la paix vont de pair. Et
oui, mais ça, c'est une personne qui est dans la philosophie. Le sociologue, il va dire, mais écoutez, injuste, juste, est-ce que c'est objectif ou subjectif? Toute différence n'est pas forcément une inégalité. Et toute inégalité n'est pas forcément une injustice. Y a-t-il un État, l'État qui va dire, ou le juge qui va dire ce qui est juste? Et où se fait alors... la relation à Dieu, la prière?
Alors, je ne suis pas juriste.
Tout
donc,
accepté
mais du point de vue de la bibliste que je suis et de la croyante que je suis, de la foi qui est la mienne, il est de mon devoir de m'impliquer pour que toutes les diversités, moi je ne parle pas de différence, mais de diversité culturelle puissent être reconnues dans leur dignité, que chaque personne soit reconnue dans sa dignité, quoi qu'elle ait fait, quoi qu'elle ait dit. J'ai travaillé avec des chefs de guerre rebelles, j'ai eu des enfants soldats en face de moi qui étaient prêts à tuer les gens autour d'eux, apprendre à respecter la dignité de la personne malgré tout ce qu'elle a fait. Ça, c'est fondamental. Et il faut être juste jusque là-dedans. Et y compris dans la vie de tous les jours. Ici, c'est compliqué pour moi des fois de me dire, ben voilà, où est la justice, par exemple, dans les fermetures au niveau de la pandémie, par rapport aux boutiques, par rapport aux magasins. En tant que croyante, en tant que bibliste, j'ai le droit d'interroger ça. J'ai pas de réponse, j'ai pas de solution, mais il m'appartient de poser les questions.
Et parfois, justement, de dire, ben non, en conscience, je n'accepte pas une loi que je considère.
Exactement.
Mais ce lien social, alors, est-ce que je suis citoyen? Vous venez de Suisse et la notion de la laïcité est pour vous, en France, un petit peu compliquée. Au Canada, il n'y a pas la laïcité comme en France.
En Suisse non plus, d'ailleurs.
Donc, nous avons à débattre, bien sûr, sur l'enseignement du fait religieux, non seulement à l'école, mais sur la pratique, à l'hôpital. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette spiritualité qui est parfois... on dit, oh ben non, on ne va pas vouloir profiter de ce que quelqu'un a en fin de vie pour lui donner une extrême onction ou bien le ramener à des choses qui ne seraient pas ses convictions profondes.
Pour moi, il ne s'agit pas de convictions. Il s'agit simplement de permettre à la personne d'accéder à sa dignité, en dehors de toute considération de quelle est ma couleur religieuse ou politique ou sociale.
Le droit de mourir dans la dignité.
Le droit de mourir dans la dignité.
C'est quelque chose volontaire de vieillesse.
Alors, ça n'est pas la position de mon église. Là, je parle. On est en train de travailler là-dessus. Notre église est en train de plancher sur ces questions grave au niveau de la Fédération protestante de France, mais moi je suis à ce niveau-là profondément suisse et oui, clairement, je plaide pour ce droit-là.
Dans la revue Réforme, qui est extrêmement ouverte sur ces questions, parce qu'il y a souvent le pour et le contre, pro et contra, comme dans l'Église catholique où il y a ces débats, puisque le pèlerin, la croix, la vie ont des points de vue pas forcément identiques. Donc il faudra, je pense, que vous reveniez pour nous parler de cette tendresse de Dieu. Mais Dieu pleure sur la croix. Dieu pleure, la théorie ou une histoire pour consoler Dieu. Qui sommes-nous par rapport à l'éternel?
Quelque chose de l'éclat de Dieu sur terre, un bout de son image, chacune et chacun un bout de l'image qui doit devenir à sa ressemblance. C'est le travail de toute une vie. On est né à l'image, un petit éclat d'image.
Et pour parler à celui qui est tout autre, vous dites Dieu, au féminin, Dieu masculin et féminin.
Il n'est ni masculin ni féminin, il est vraiment tout autre, mais il m'arrive de l'écrire tout avec un E autre ou un tiret, T-O-U-T-E-E, parce que je tiens à ce que les personnes avec qui je travaille se rendent compte que Dieu nous échappe, c'est le commandement. Tu ne te feras pas d'image taillée. Moi, je suis une vétérotestamentaire, une femme du Premier Testament, de l'hébreu. Ne pas se faire d'image taillée de ce qui est dans le ciel, de ce qui est sur la terre et de ce qui est sous les eaux. Ça veut dire ni de Dieu, ni des humains. Chaque humain est aussi tout autre que je peux me l'imaginer.
Donc, pardon pour les fausses images ou pour nos fantasmes et nos peurs qui ne sont pas vraiment réelles. Et aussi, sans doute, merci pour cet enfant que Dieu nous offre à travers peut-être Marie, cette autre figure dont il faudra sans doute reparler.
Volontiers.
Mais pardon, merci. Et puis, eh bien, c'est des prières qui nous réunissent lorsque nous pensons qu'il est possible de parler et de chanter, pour la plus grande gloire de Dieu. Et pour la construction de son royaume.
Merci pour ce partage.
À bientôt,
à
Véronique.
À bientôt, je l'espère.
Je pense que nous avons encore du grain à moudre et à approfondir notre foi, nos convictions, dans une ouverture avec toutes les cultures.
Balbutier Dieu ensemble, comme dirait André Gounel.
Très bien. À bientôt.
À bientôt.